La tâche d'une critique de la violence peut se définir en disant qu'elle doit décrire la relation de la violence au droit et à la justice. Walter Benjamin. Critique de la violence de Walter Benjamin, fragments et feedback. Une proposition radiophonique d'Alpha Béville sur les ondes de Radio Grenouille, dans le cadre du cycle de la guerre et de la paix. À partir d'une lecture par Liliane Giraudon, Suzanne Joubert, Aglaïa Moucha, Colette Tron, Marie Bassière, à Montevideo, mercredi 13 avril 2016. Commentaires et entretiens avec Liliane Giraudon, écrivain, Nathalie Quintan, écrivain, Sylvain Georges, auteur et réalisateur, Amandine André, écrivain, Franck Hansel, artiste et théoricien. Dans sa critique de la violence, le philosophe Walter Benjamin interrogeait les états, formes, moyens et fins de la violence à l'endroit des rapports moraux. La violence se justifie-t-elle? Qu'est-ce qui l'autorise? Comment se manifeste-t-elle? Est-il, d'une façon générale, possible de liquider les conflits sans recourir à la violence? Critique de la violence de Walter Benjamin, fragments et feedback, troisième feedback, Sylvain Georges.
Fausse et basse est la proposition selon laquelle l'existence se situerait plus haut que l'existence juste. Si, par existence, on entend seulement le simple fait de vivre. Et c'est bien ce qu'on entend dans la considération qui vient d'être rapportée. Mais cette proposition contient une forte vérité si existence, ou mieux vie, signifie l'immuable état de l'homme. Si la proposition veut dire que le non-être de l'homme serait quelque chose de plus terrible que le non-encore-être inconditionnellement pur et simple de l'homme juste. À cette ambiguïté, la proposition doit son caractère spécieux. L'homme, précisément, ne doit être confondu à aucun prix avec la simple vie qui est en lui, ni avec cette simple vie, ni avec n'importe quel autre de ses états et n'importe quel autre de ses qualités. Disons plus, pas même avec l'unicité de sa personne physique.
Autant l'homme est sacré, ou aussi cette vie en lui qui reste identique dans la vie sur terre, dans la mort et dans la survie, aussi peu le sont ses états, aussi peu l'est sa vie physique, susceptible d'être lésée par d'autres hommes. Qu'est-ce en effet qui la distingue essentiellement de celle des bêtes et des plantes? Et même si bêtes et plantes étaient sacrées, elles ne pourraient l'être pour leur simple vie, ni en elles. Sur l'origine du dogme qui affirme le caractère sacré de la vie, il vaudrait la peine de faire une recherche. Il se peut, il est même vraisemblable, que ce dogme soit récent, à titre d'ultime égarement de la tradition occidentale affaiblie, qui cherche, dans le cosmologiquement impénétrable, le sacré qu'elle a perdu. Et voici, finalement, qui donne à réfléchir. Ce qui est ici qualifié de sacré est ce que l'ancienne pensée mythique désignait comme porteur de culpabilité, le simple fait de vivre.
L'œuvre du philosophe Walter Benjamin, j'ai commencé à l'appréhender dans les années 90, avant que je ne débute mon activité cinématographique, et alors que j'étudiais les sciences humaines et plus particulièrement la philosophie. Donc j'ai travaillé sur différents aspects de son œuvre, notamment la question du théâtre, la question de l'esthétique, la philosophie de l'histoire, et bien évidemment, je me suis, parmi les multiples textes qu'il a écrits, notamment dans sa jeunesse, je me suis intéressé à ce texte pour une critique de la violence qu'il avait donc publié en 1921 dans une revue de sociologie participant du cercle de la, enfin, autour de la pensée de Max Weber. C'est un texte que je considérais et que je considère toujours comme très important parce qu'en fait, comme de multiples autres textes en fait, de Benjamin, il travaille la question de la sécularisation. Et en s'attachant plus particulièrement dans ce texte sur la violence. Donc la question de la sécularisation, il a pu la travailler dans d'autres domaines, hein, notamment l'esthétique, son texte sur l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité mécanique, par exemple. Mais dans pour une critique de la violence, il s'attache à traiter de cette problématique à l'aune de cette question de la sécularisation. Enfin, moi, je trouve que c'est plus intéressant, c'est intéressant en tous les cas d'avoir comme clé de lecture ou d'ouverture pour ce texte-là, la problématique de la sécularisation. C'est une problématique de la sécularisation qui traverse l'Occident depuis le XVIe siècle. Et Benjamin, lui, reprend cette problématique et la pousse, à mon avis, dans une perspective extrêmement intéressante et qui n'est pas anodine dans le sens où il va discuter de façon extrêmement radicale, notamment avec un penseur qui va être très actif dans la pensée dite nazie, qui est le juriste Carl Schmitt. Donc il aura discuté avec Carl Schmitt à la fois dans son habilitation de recherche, qui est l'origine du drame baroque allemand, dans lequel il reprend le concept d'état d'exception que Carl Schmitt aura théorisé pour le renverser, pour faire une analyse du roi dans le drame baroque allemand, et pour ensuite le renverser, évidemment, mais on trouve les premiers éléments de ce travail dans ce texte-là, pour le renverser et le théoriser dans son écrit testamentaire, qui seront les thèses sur la philosophie de l'histoire. Et dans « Pour une critique de la violence », il a, à mon avis, aussi, dans son horizon de pensée, évidemment Max Weber, évidemment Georges Sorel, mais aussi, à mon avis, Carl Schmitt. Donc Carl Schmitt, il a dans son idée de la sécularisation, il considère en fait cette question comme une question juridico-politique. C'est-à-dire que Carl Schmitt, il définit la sécularisation comme le transfert de la structure religieuse dans l'État. Alors, par exemple, la théologico-politique médiévale, elle, considérait que l'Église, d'une certaine façon, légitimait l'État, et cette théologico-politique est invalide dans la modernité. Et l'État moderne peut donc se légitimer lui-même, par lui-même, à la place de l'Église. Ça, c'est la pensée de Carl Schmitt. Mais Benjamin, lui, il va, et c'est ce qui me semble extrêmement intéressant, il va clarifier ces transferts du sacré dans la politique moderne. Et dans son texte pour une critique de la violence, il va clarifier le transfert du sacré dans la politique moderne en inventant des notions, ce qui pourrait être même des concepts, qui seraient le simple fait de vivre, ou que d'autres ont appelé la vie nue, la violence sacrée, etc. Et à la violence sacrée, qui serait celle qui participerait de la politique moderne du monde contemporain, il va déconstruire cette violence, c'est notamment la violence sacrée, cette résurgence du sacré dans la politique moderne, pour définir une nouvelle violence, d'une certaine façon, qui ne s'inscrirait absolument pas dans le plan d'immanence dans lequel la violence dite sacrée s'inscrirait. Ce qu'il appelle le simple fait de vivre, c'est ni plus ni moins que la résurgence de la pensée mythique dans le monde moderne, ou comment le monde moderne dans son processus de sécularisation, resacralise, ou comme la dimension du sacré se déplace, irrigue le monde moderne, et comment d'une certaine façon, le processus de sécularisation n'est pas poussé à bout. Et pour une critique de la violence, de Benjamin, c'est la mise en avant d'une, ni plus ni moins que de la vie profane, hein, donc une profanation de la vie sacrée, donc la mise en avant de la vie profane contre la vie sacrée. Et c'est ce qui va faire écrire, c'est ce que Benjamin écrira notamment en disant, tant que l'on verra par exemple un clochard, un mendiant dans la rue, on sera encore dans la pensée mythique. Qu'est-ce qu'il dénonce dans, pour une critique de la violence ? Qu'est-ce qu'il dénonce dans la violence sacrée ? Qu'est-ce qu'il dénonce dans la vie sacrée ? Le fait que l'homme soit sacrifiable. Dans Pour une critique de la violence, Benjamin va d'une certaine façon analyser et dénoncer la sacralisation de la vie. Comment, alors a priori c'est une idée qui pourrait paraître assez noble, l'existence est sacrée, l'existence est intouchable, l'existence est placée au-dessus de tout. Mais qui dit une existence sacrée dit qu'une vie, donc un homme sacré, donc, peut être donc sacrifiable. C'est-à-dire, on voit bien le transfert, comme ça, dans la vie dite séculaire, de catégories autrefois religieuses, qui vont définir un espace sacré. Et qui dit espace sacré dit évidemment espace sacrifiable, dit, hein, qui dit totem dit tabou, etc. Et ce que je trouve extrêmement puissant donc, dans la pensée de Benjamin, c'est comment il va essayer de définir une violence profane.
De même que dans tous les domaines, Dieu s'oppose au mythe. Ainsi, à la violence mythique s'oppose la violence divine. À tous égards, elle en est le contraire. Si la violence mythique est fondatrice de droit, la violence divine est destructrice de droit. Si l'une pose des frontières, l'autre est destructrice sans limite. Si la violence mythique impose tout ensemble la faute et l'expiation, la violence divine lave de la faute. Si celle-là menace, celle-ci frappe. Si la première est sanglante, sur un mode non sanglant, la seconde est mortelle. La violence mythique est violence sanglante exercée en sa propre faveur contre la vie pure et simple. La violence divine est violence pure, exercée en faveur du vivant contre toute vie. La première exige le sacrifice, la seconde l'accepte.
Benjamin, il va définir un troisième terme, ce qu'il va appeler la violence divine. Et cette violence divine, elle va se construire sur la réappropriation de motifs théologiques juifs, mais qu'il va travailler de façon athéologique. Il y a une fameuse citation de Benjamin qui indique que sa pensée est imprégnée de théologie comme le buvard peut l'être de l'encre, mais son approche, il faut bien le comprendre, est athéologique. Elle est d'autant plus magnifique, je trouve, et puissante que au refus d'une certaine façon de la religion, à l'idée de faire du tabula rasa, Benjamin, il va véritablement considérer que dans la religion, peut être aussi, il va avoir une lecture un peu anthropologique de la religion, pouvant considérer qu'un certain nombre d'éléments considérés comme étant religieux peut au contraire, à partir du moment où ils sont considérés comme des inventions humaines, participer de l'expérience moderne et contemporaine, pouvoir à la fois décrypter la vie contemporaine et moderne, et dans le même temps aussi forger des outils à même de pouvoir contrer ce qu'une vie moderne a priori, ce que la vie moderne a priori considérait comme tendait à exclure, c'est-à-dire à partir d'une lecture athéologique, non pas un refus hein, de la religion, etc., mais avec une lecture athéologique de certains éléments, il va construire des concepts profondément profanes qui seront à même de pouvoir contrer le réinvestissement du sacré dans la vie moderne, alors même que celle-ci considère qu'elle est dans un processus de sécularisation. Donc c'est extrêmement... c'est très très puissant d'un point de vue dialectique et me semble-t-il pertinent. Et donc son troisième terme, c'est ce qu'il appelle la violence divine. C'est-à-dire comment... la violence divine, ce serait pas du tout une synthèse. On n'est pas du tout dans une pensée hegelienne, ce serait pas du tout la synthèse entre la violence fondatrice et conservatrice de droit. C'est une violence radicalement différente, autre, du suspens, de l'écart. C'est un type de violence qui ne s'inscrit pas dans ce plan, dans ce type de processus séculaire tel que Carl Schmitt l'a mis en avant, par exemple. Mais qui, bien au contraire, diffère radicalement de ce processus-là, en fait. C'est une violence qui serait une violence suspensive, une violence que, par ailleurs, il a, qui serait proche de ce qu'on appelait la césure holderlinienne, une violence qui ne s'inscrit pas du tout dans le même type de processus, ne s'inscrit pas du tout dans le même type de plan, ne vient pas du tout... c'est une violence radicale qui interrompt le cours des choses, mais c'est pas du tout une violence qui anéantit. C'est une violence destructrice, mais pas du tout une violence destructrice au sens où l'individu serait sacrifié. C'est tout le contraire. Donc ce que Benjamin met notamment en avant dans son texte, c'est comment on ne peut pas s'arrêter à une analyse contingente de la violence, c'est-à-dire avec ses effets les plus contemporains et s'arrêter à une simple dichotomie, comme pouvait le faire Max Weber, entre la violence conservatrice et fondatrice de droit. Il indique qu'en fait, il faut travailler la violence dans son histoire, en tous les cas dans sa philosophie, c'est-à-dire qu'il faut en arriver, il faut la travailler sur le long cours. Dans son analyse sur la violence, il montre comment l'État dit de droit, qui en arrive à sacrifier donc l'individu pour conserver ses droits, met en avant donc une violence mythique, réactive, une violence mythique. Et pour Benjamin, pour détruire un État de droit, il faut s'attaquer à cette notion de violence qu'il irrigue, à savoir cette notion de violence mythique. Et la violence divine, ou la violence profane, c'est une violence qui justement vient interrompre ce cycle de la violence mythique, vient donc briser cette violence mythique mise en œuvre par l'état de droit, et donc à partir de là, réenvisage de façon radicale la notion d'état de droit, voire même la notion d'état. C'est ça ce que Benjamin met en avant. Et ce qu'il met en avant, c'est ce qui se dessine, c'est une notion de communauté qui ne se maintient pas, qui ne se fonde ni par la violence fondatrice de droit, ni ne se défend par la violence conservatrice de droit. Une communauté profondément violente, mais de façon profane, c'est-à-dire une communauté qui ne peut se constituer que par la rencontre avec l'autre. Une communauté qui est sans consistance, qui ne repose pas sur les concepts classiques de l'identité, sol, sang, etc. Donc sans consistance, et qui ne peut exister que par l'ouverture à l'autre et la notion d'advenir, d'une certaine façon. Donc une communauté résolument profane, résolument violente, qui ne peut se constituer que dans l'ouverture à ce qui advient. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, à mon avis, intéressant à travailler, surtout aujourd'hui, quand on voit si on fait écho à l'actualité la plus immédiate. C'est une dimension, à mon avis, qui est en jeu aussi dans... ce qu'on a dans un certain nombre de processus politiques expérimentaux qui irriguent un peu, qui surgissent comme ça dans les sociétés occidentales et non occidentales depuis quelques années, il y a cette dimension de la violence profane chez les indignés espagnols, par exemple. ou bien d'ennui debout, c'est-à-dire la création d'un l'occupation d'une place, mais qui est une place située dans un temps non chronologique. Hein, j'en veux pour preuve, par exemple, que Nuit debout, on en serait au 70e ou au 80e jour de mars. Donc on voit bien qu'il y a la création d'une nouvelle temporalité. Donc c'est un temps non linéaire, non chronologique, un espace-temps singulier, en fait, qui vient donc dynamiter le temps des horloges, une constellation dialectique dans laquelle viennent se télescoper de multiples temporalités, des individus très différents les uns des autres, de générations différentes, dans le présent-là, mais qui évidemment vient aussi rencontrer, par cette temporalité radicalement différente, vient aussi rencontrer des individus passés, des individus, des expériences historiques passées, enfouies, oubliées, méprisées, etc., comme des éléments... voilà, des éléments passés comme des éléments plus présents, mais qui sont occultés. La violence profane, la violence divine, donc résolument profane, que met en avant Benjamin, c'est une violence qui permet la création de constellations dialectiques, de rencontres entre ce que tout sépare, et qui met en avant la dimension irréductible de chaque individu, met en avant le fait que rien ne peut être prescrit dans l'histoire. Un pouvoir, quel qu'il soit, ne peut pas prescrire un fait, la vie d'un individu. Bien au contraire, la violence profane, elle rend imprescriptible toute existence humaine, toute existence biologique, minérale, tout fait entre guillemets, hein, puisqu'un fait est toujours construit. Historique. C'est ça ce que je trouve extrêmement beau chez Benjamin. C'est le fait que rien ne peut être prescrit.
El 15M está muerto. El mundo está ya despierto. Estamos aquí de nuevo. Volvemos con ilusión a cambiar la dictocracia. Nos engañan con tesón y nos hace poca gracia. Siempre ha sido la nobleza de la juventud sin mancha la que inicia las protestas para ver si todo cambia. Ha llegado ya la hora expresar sin que nos pisen ni callen los que no quieren cambiar. Siempre debemos luchar por las reivindicaciones sin dejarnos engañar por las eternas canciones. Cuando se habla de justicia, solidaridad y empleo, casi siempre son los mismos que pagan los desafueros. Uno de los grandes fraudes de esta democracia incierta es la ley electoral que nos ha sido impuesta. El voto ha de ser igual para todos los partidos, no dando nunca ventajas a siempre han vencido. Y una un poco fuerte. Los dueños del capital, ya sean bancos o empresas, nos han traído la crisis por engrosar sus riquezas. Por décadas se ha luchado con mucha fuerza y tesón. No consentiremos nunca una burda expoliación. Y esta protesta pacífica que en justicia promovemos por las promesas inciertas que nos hacen los gobiernos.
de Benjamin, elle se base sur la rencontre. La rencontre, elle renvoie évidemment à un concept d'expérience dont il aura déploré la perte, notamment dans un certain nombre de ses écrits, expérience et pauvreté, etc. Ou comment les soldats revenant de la Première Guerre mondiale n'étaient plus dans la transmission, mais c'est bien quelque chose qu'il repère dans la modernité, c'est-à-dire, il y a de multiples essais, hein, il y a aussi des essais sur le compteur, etc. Comment la modernité se fonde sur la perte de l'expérience, donc l'absence de transmission entre générations. Et tout son, et notamment dans, et donc tout son travail, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Pour une critique de la violence, c'est comment peuvent être rétablies la notion de transmission entre les individus et entre les générations. Mais une transmission qui ne soit pas une transmission réactionnaire ou fondée sur un savoir préétabli, préalablement établi, etc. Par exemple, ce qui est très beau, moi je trouve, ce que j'ai pu constater par exemple en Espagne et aussi par exemple à Nuit Debout, c'est comment des gens de multiples générations se retrouvent à un moment donné sur une place, ou de multiples nationalités, hein, se retrouvent à un moment donné sur une place. Et moi ce qui m'a frappé par exemple, c'est pour ça que je l'ai mis en ouverture du film d'Envers Madrid, il y a un vieil homme qui est là, qui avait connu le franquisme, qui dit « Ah, je salue la jeunesse qui nous permet de nous exprimer ». Mais la jeunesse permettant, donc les nouvelles générations, permettant à des générations passées qui sont restées confinées dans le silence de s'exprimer, dans le même temps, cette génération passée s'exprimant délivre un savoir qui n'a pas été transmis, délivre un certain nombre d'expériences qui n'ont pas été transmises aux nouvelles générations. Et c'est là où il y a quelque chose que je trouve extrêmement fort, qui participe d'une certaine idée de la jeunesse. C'est comment le savoir se base sur la transmission. Mais cette transmission se base sur le dialogue intergénérationnel. La transmission, ce n'est pas quelque chose qui vient du haut vers le bas. C'est quelque chose qui circule. Il ne peut y avoir de transmission qu'à partir du moment où les générations répondent les unes avec les autres, les unes aux autres. Et dans son concept sur la philosophie de l'histoire, c'est ça. Comment les générations présentes actuelles s'intéressant au passé, délivrent le passé, et le passé se délivrant vient répondre aussi aux attentes du présent, etc. Donc il y a bien une notion d'égalité qui se dégage là. Et à travers cette notion d'égalité, une certaine philosophie de la justice.
Critique de la violence de Walter Benjamin, fragments et feedback. Troisième feedback, Sylvain Georges. Une proposition radiophonique d'Alpha Béville sur les ondes de Radio Grenouille, dans le cadre du cycle de la guerre et de la paix.